C'est donc à la figure de Moïse que nous allons nous attacher ce soir dans cette série de rencontres portant sur des grandes figures de l'Écriture. Je serai obligé de traverser à grands pas, et de manière au fond nécessairement bien insuffisante, quatre grands livres de la Bible, donc les quatre grands livres qui constituent le Pentateuque avec le livre de la Genèse. Donc vous imaginez que ça sera une traversée à la fois du désert, mais des textes qui laissera nécessairement des lacunes. Peut-être vos questions m'aideront-elles à compléter ces lacunes si je suis en mesure de le faire. En effet, l'histoire de Moïse recouvre quatre livres. L'Exode, qui rapporte la sortie d'Égypte, les Nombres, qui rapportent l'errance dans le désert, le Lévitique, qui est un texte de loi, qui propose principalement donc l'élaboration des lois que le peuple doit observer, et le Deutéronome, qui, dans un grand discours attribué à Moïse, reprend l'ensemble de cette aventure et la récapitule. Par rapport aux figures que nous avons antérieurement vues, que ce soit Adam, Abraham ou Jacob, avec Moïse, nous allons entrer plus profondément dans l'histoire. D'abord, puisque nous avons des événements que nous pouvons à peu près dater, nous sommes à peu près en 1300 avant Jésus-Christ, et on rentre dans l'histoire avec tous ces cris, ces passions, ces décisions incertaines, et même plutôt que l'histoire dans une forme d'épopée, une épopée noire, sombre. Car la figure qui apparaît va être celle du peuple. Le personnage principal de ces livres, c'est le peuple. J'ai appelé cette série Moïse pour respecter l'idée de passer par des figures, et ce n'est pas illégitime, mais la figure principale qui surgit est celle du peuple. Dans les figures précédentes, nous avions affaire à des histoires au fond tragiques, parce qu'elle concerne des familles, des problèmes de la transmission du sang, et donc toutes les familles ou toutes les tragédies donc, se déroulent dans l'enceinte des familles où on est à la fois toujours trop proche et trop loin, d'où des déchaînements de violence que l'on se rappelle donc à travers l'histoire des patriarches, où l'essentiel, c'est la naissance d'Isaac, l'hérédité, le partage de l'héritage, etc. Là arrive la figure du peuple, puisque nous allons rentrer dans la dimension politique, nous allons rentrer dans la guerre, dans la nécessité du courage, de l'intelligence guerrière, de l'organisation, de l'exploit. Mais je disais une épopée sombre. Car, comme d'ailleurs tout ce que nous allons rencontrer à travers les différentes figures, ce peuple n'est pas du tout célébré pour son héroïsme. La Bible est peut-être le seul livre de l'histoire d'un peuple qu'il écrive du point de vue de sa défaite. Si la Bible est un livre noir, c'est parce qu'elle est écrite par des gens qui portent la mémoire de la catastrophe. Et quand il raconte les hauts faits du passé, c'est pour se demander ce qui est arrivé pour que tout cela aboutisse à des catastrophes. C'est pourquoi cette épopée est toujours l'histoire d'une faute. Ça commence d'ailleurs par Adam, et puis par Abraham, et par Jacob. Mais alors, ça sera encore plus vrai dans les épisodes que nous allons parcourir. Je dis en deux mots, sans être vraiment compétent, pourquoi cette épopée est une épopée noire et pourquoi cette histoire est vue du point de vue du perdant. C'est le seul livre d'histoire écrit du point de vue du perdant. Parce que les livres que nous lisons, Ils ont été collectés à partir d'un certain nombre de traditions, collectés donc rédigés, puisque celui qui collecte raboute les textes, mais il ne les raboute pas n'importe comment. Il les coordonne selon une cohérence, donc il est à la fois le rédacteur et le collecteur des textes. Et ces textes sont donc colligés lorsque l'histoire d'Israël est finie. 722, le royaume du Nord est exterminé. 580 et quelques, le royaume du Sud est exilé. Et c'est à ce moment-là que l'on se met à écrire l'histoire du peuple. Donc quand on va chanter les armes et les exploits du passé, ça ne sera pas pour dire « nous sommes les meilleurs ». Ça ne sera pas pour dire « nous sommes les héros ça ne sera pas pour chanter donc les mérites du peuple fondateur, comme par exemple peut le faire un Virgile dans l'Énéide. « Arma virumque cano », je chanterai les armes et les héros pour célébrer justement la grandeur de mes origines. Pas du tout. Là, on va se rappeler qu'il y a une altération, il y a une blessure dans cette histoire dès le début. Pas. Vous pensez ? Retrouvant Joseph en Égypte, le texte nous dit qu'ils sont à peu près 70. 400 ans plus tard, le texte nous dit qu'ils sont 600 000 à quitter l'Égypte. Sur ces 600 000 qui quittent l'Égypte, deux parviendront à Canaan. Josué et quelqu'un dont je suis en train de chercher le nom, Caleb, qui d'ailleurs n'est pas hébreu. Donc c'est vraiment l'histoire d'un cataclysme, d'un naufrage. Non pas un naufrage dans la mer Rouge, mais un naufrage dans le désert. Et il va falloir comprendre pourquoi il y a eu ce naufrage et quel rôle y joue la figure à la fois sublime et tragique de Moïse. D'ailleurs, nous n'avons pas un patriarche, nous n'avons pas quelqu'un qui va diriger ce peuple en fonction du sang. Nous avons un meneur qui surgit, alors appelé par Dieu à cette fonction, mais pas seulement appelé par Dieu, car cette fonction, il l'a prise avant d'y être appelé. Il a tué un Égyptien qui frappait un esclave hébreu. Et d'ailleurs, au moment où il tue un Égyptien qui maltraitait un esclave hébreu, alors il pourrait se présenter comme le sauveur du peuple, voilà, celui qui va enclencher un processus de libération de ce peuple opprimé par un premier geste révolutionnaire. Mais le lendemain, le pauvre Moïse, se croyant sans doute devenu un meneur révolutionnaire, essaye d'arbitrer une querelle entre deux Hébreux qui lui disent « Mais qui t'a fait notre chef ? Qui t'a fait notre juge ?» Donc, il n'a pas de légitimité à mener ce peuple. Il n'a pas une légitimité héréditaire, il n'a pas une légitimité clanique ni de sang. C'est pourquoi nous rentrons dans l'histoire avec la complexité donc, de la politique et de la question du pouvoir qu'elle engage. Quitte à constituer notre chef, quitte à constituer notre juge, cette question qu'on lui renvoie dès le premier moment, avant même la révélation du buisson ardent, cette question, elle va sans cesse revenir. D'ailleurs, c'est la question politique par excellence, quitte à faire roi. Dans le même temps, avec le souvenir de cette catastrophe, 600 000, il y a aussi le souvenir de l'Alliance et de la réalisation de la promesse. Cette promesse qui fut faite à nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et donc, dans le creux de la catastrophe, c'est le moment de recueillir une petite lumière d'espoir. Mais voyez, 600 000 d'eux, l'espoir ne fait pas le poids du point de vue quantitatif. Et donc, c'est dans le plus petit que l'espoir vacillant va pouvoir être recueilli et que l'on va pouvoir se rappeler l'alliance et la promesse. Oui, On va se rappeler cette alliance et cette promesse, mais on va se rappeler cette alliance comme une alliance qui a été trahie par le peuple. Et on va penser que précisément, si ce peuple a été exterminé, c'est parce qu'il a été infidèle. Peuple à la nuque raide. Et en effet, quelle est la différence avec l'histoire des patriarches que nous avons vue dans les épisodes précédents, si je puis m'exprimer ainsi? C'est que avec Moïse, avec l'organisation du peuple, avec la dimension historique et politique, l'alliance prend aussi la forme de la loi, dont nous verrons qu'elle a pour mission essentielle d'être commémoration, d'être mémoire de notre histoire. Garder la loi, c'est garder la mémoire. Et le peuple juif est celui qui, comme un escargot qui transporte sa maison partout, va transporter son appartenance à la loi par l'intermédiaire de la mémoire qui est sa véritable habitation. Oui, mais pas toujours. Et il arrive souvent au peuple, justement, d'oublier cette loi, de la trahir et de devenir idolâtre. Donc, en même temps que la mémoire de la libération du peuple d'Égypte, il y a la mémoire de la faute, il y a la mémoire de l'alliance, mais d'une alliance qui est sans cesse trahie, bafouée, et qui donc renvoie le peuple à sa culpabilité. Et si le peuple est renvoyé à sa culpabilité, eh bien celui qui l'a libéré n'est pas exonéré de toute faute. Il va falloir aussi, puisqu'il s'est porté ou qu'il a été porté à la tête de ce peuple, et bien il va falloir aussi qu'il en assume la pleine culpabilité. Alors on va marcher à pas forcés. Je risque d'être plus long que d'habitude, excusez-moi, donc de laisser moins de place à vos questions, mais cette histoire est tellement vaste que, en dépit de l'amplitude de mon pas, je ne pourrais pas tout dire. Je proposerai quatre temps. Un premier temps que j'appelle l'homme à l'oreille de qui Dieu parle, l'homme qui a parlé à Dieu, l'homme qui a vu Dieu face à face, enfin c'est ce que nous dit le texte, bien qu'en même temps aussitôt il le contredise. Deuxième temps, je dirai quelques mots sur la relation de l'homme et de son peuple. Dans un troisième temps, j'insisterai sur l'importance de l'alliance et de la loi, puisque c'est le cœur de nos quatre livres. Au prix même d'énumérations lassantes que parfois on saute allègrement, enfin pour que ma part je saute parfois. Nous terminerons, comme il se doit, par l'épilogue. Premièrement, l'homme à qui Dieu parle. Relisons, car il faut commencer par laisser place au texte, relisons l'épisode que vous connaissez bien sûr, du buisson ardent. Moïse faisait paître, donc Moïse dans cet épisode va être appelé à libérer le peuple, mais je vous rappelle qu'avant d'y être appelé par Dieu, il avait pris lui-même une initiative toute humaine et toute naturelle, qui consiste à casser la gueule à quelqu'un. Donc le mouvement naturel de l'humanité précède aussi l'appel précède aussi la vocation. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Il l'emmena par-delà le désert et parvint à la montagne de Dieu, l'Horeb. L'ange de Yahvé lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Moïse regarda, le buisson était embrasé, mais il ne se consumait pas. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle et pourquoi le buisson ne se consume pas. » Yahvé vit qu'il faisait un détour pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Il dit, « N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il dit, « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Yahvé dit, « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste. vers une terre qui ruisselle de lait et de miel, vers la demeure des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périsites, des Évites, des Jébuséens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon, faire sortir d'Égypte mon peuple. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je ?» pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites. Dieu dit, « Je serai avec toi, et voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « Voici que je vais trouver les Israélites, et que je leur dis, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Mais s'ils me disent, « Quel est son nom ?» Que leur dirai-je ? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Et il dit, « Voici ce que tu diras aux Israélites, « Je suis, m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore, « Tu leur parleras ainsi, « Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours, c'est ainsi qu'on m'invoquera de génération en génération. » Alors tout au long de la pérégrination dans le désert, après l'Exode et pendant l'Exode, Moïse s'entretient sans cesse avec Dieu, avec une familiarité assez étonnante d'ailleurs. Quand il a des problèmes, quand on lui demande d'arbitrer un litige, il dit « Attendez, je vais demander à Dieu ». Donc il sort et il va demander à Dieu la réponse à cette question. Et donc, ce qui marque ce texte, c'est une certaine familiarité apparente du divin et de l'humain qui caractérise donc la révélation faite à Moïse. Mais pour approfondir encore cette considération du dialogue entre Moïse et Dieu, regardons la révélation sur l'Horeb. Donc vous savez, Moïse, tandis que le peuple séjourne en bas, gravit la montagne et poursuit en haut de la montagne son dialogue avec Dieu. Et là, nous allons, je pense, dans ce passage, trouver pas mal de lumière. Moïse lui dit, fais-moi de grâce voir ta gloire. Voir la gloire, voir Dieu, c'est le désir le plus essentiel d'un homme de foi. Je veux voir Dieu et voir Dieu donc dans sa gloire, sa splendeur, sa lumière. La gloire, c'est la lumière. Fais-moi voir ta resplendissance, je ne sais pas, ta splendeur. Dieu dit, il avait dit, je ferai passer devant toi toute ma beauté. Je prononcerai devant toi le nom de Yahvé. Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai pitié de qui j'ai pitié. Mais, dit-il, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Yahvé dit encore, voici une place près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand passera ma gloire, je te mettrai dans la fente du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Puis j'écarterai ma main et tu verras mon dos. Mais ma face, on ne peut la voir. Donc Dieu dit, voilà ce qui va se passer, attention, prépare-toi, je vais apparaître. Mais entre-temps, il se passe quelque chose. Yahvé dit à Moïse, taille deux tables de pierre semblables aux premières, puisqu'il vient de briser les tables de la loi, c'est l'épisode du veau d'or que nous reverrons. Taille deux tables de pierre semblables aux premières, monte vers moi sur la montagne et j'écrirai sur les tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Donc Dieu promet de se manifester, mais dit, mais entre-temps, tu vas écrire les tables de la loi. Ce qui est une manière de dire, la véritable manifestation, c'est les tables de la loi. Et tu attendras d'avoir rempli les tables de la loi avant qu'une quelconque gloire ne se manifeste à toi. Sois prêt au matin, monte dès le matin sur le mont Sinaï et attends-moi là au sommet de la montagne, que personne ne monte avec toi, que personne ne paraisse sur toute la montagne. Il tailla donc deux tables de pierre semblables aux premières et s'étant levé de bon matin, Moïse monta sur le Sinaï comme Yahvé le lui avait ordonné. Il prit dans les mains les deux tables de pierre, Yahvé descendit dans une nuée, il se tint là après lui. Moïse invoqua le nom de Yahvé, Yahvé passa devant lui. Et il cria, Yahvé, Yahvé, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité, qui garde sa grâce à des milliers, tolère faute, transgression et péché, mais ne laisse rien impuni et châtie les fautes des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. Aussitôt Moïse tomba à genoux sur le sol et se prosterna. Puis il dit, « Si vraiment, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux, que mon Seigneur veuille bien aller au milieu de nous, bien que je sois un peuple à Nucrède, bien que ce soit un peuple à Nucrède, pardonne nos fautes et nos péchés et fais de nous ton héritage. » Épisode très intéressant dont nous reverrons la même structure dans quelques temps. Donc il y a une promesse, tu vas me voir. Et puis entre-temps, la promesse est suspendue. Observe l'étape de la loi. Et la vision n'est donnée qu'après cet intermède, qui n'est pas un intermède, mais qui est le cœur du récit. Donc le cœur du récit n'est pas la vision de Dieu. Le cœur du récit, c'est l'écriture des tables de la loi. Et la véritable splendeur donc sera manifestée dans la loi elle-même. Mais, donc, je le disais, tout le passage dans le désert est ponctué d'entretien avec Dieu, de telle sorte que Moïse, bien que Dieu se refuse à se manifester dans sa face, dit que tu ne me verras que de dos, exactement comme Moïse, à la fin, ne verra la terre promise que de loin. Cependant, donc, le texte nous dit que Moïse est celui qui a parlé à Dieu face à face. C'est dans l'Exode, chapitre 33, verset 11. Yahvé parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. En effet, qui est ce Dieu avec lequel Moïse converse ? Alors, la première chose qu'on peut observer, et sur lequel d'ailleurs le texte à certains moments insiste, c'est que ce Dieu se manifeste dans la parole. Il ne se manifeste pas dans la vision, mais dans l'audition. C'est un Dieu que l'on écoute, et pas un Dieu que l'on regarde. C'est évidemment sur cette distinction que se dessinera l'opposition de l'idolâtrie et de la foi. L'idolâtre, c'est celui qui veut voir, c'est celui qui veut capter la lumière dans un objet qui la retienne par sa phosphorescence. L'homme de foi, c'est celui qui se met à l'écoute de la parole et avec d'ailleurs l'analogie constante dans toute l'humanité de écouter et de obéir. Cet enfant n'écoute pas, dit-on. Écouter, c'est se rendre disponible, alors que voir, c'est capter, c'est se rendre, c'est assurer une maîtrise sur ce que l'on voit. C'est un Dieu donc qui se manifeste dans la parole et qui parle donc le langage des hommes. Ce qu'il y a de très impressionnant, c'est que ce Dieu ne parle pas par énigme. Il ne donne pas des prophéties chiffrées à décoder. Il n'y a pas de message ésotérique dans la Bible. Et tous les gens qui cherchent un message ésotérique dans la Bible confondent justement la foi et l'idolâtrie qui prétendraient déchiffrer un secret caché dans un texte chiffré. Le texte de la Bible n'est absolument pas chiffré. Dieu parle comme vous et moi, comme le Dieu de Peggy d'ailleurs, qui s'exprime dans la langue des hommes et ne laisse rien à livrer donc comme énigme qui d'ailleurs supposerait qu'il y eût des interprètes attitrés. S'il y avait une énigme, il y aurait une pitié ou un prêtre qui déchiffre les vociférations de la pitié. Dieu ne parle pas de manière chiffrée ou ésotérique. C'est ce qui d'ailleurs nous surprend beaucoup, cette familiarité avec Dieu dans le texte. Yahvé dit, c'est dans les Nombres, chapitre 12, verset 6, « Écoutez donc mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, c'est en vision que je me révèle à lui, c'est dans un songe que je lui parle. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Toute ma maison lui est confiée, je lui parle face à face, dans l'évidence, non en énigme, et il voit la forme de Yahvé. » Yahvé se présente dans l'épisode du buisson ardent, où le mot apparaît d'ailleurs, Yahvé, comme le Dieu des pères. « Je suis le Dieu de tes pères », dit-il à Moïse, qui a beaucoup de raisons d'avoir oublié cette histoire de ses pères. Et donc « je suis le Dieu de tes pères », c'est-à-dire que Dieu se manifeste non pas comme le Dieu d'un lieu sacré, bien qu'on évoque le caractère sacré du lieu, mais comme le Dieu d'une histoire. On a déjà eu l'occasion d'insister là-dessus à propos du récit de la création. Car j'avais insisté dans le récit de la création sur le fait qu'une des portées de ce récit, c'est bien de dire que la nature n'est pas notre mère, mais qu'elle est notre sœur. Et que donc elle est créature comme nous, et nous sommes créatures au sein de cette nature, de telle sorte que s'il y a une visibilité de Dieu, c'est dans l'histoire des hommes et non pas dans les splendeurs de la nature. Hegel dira ça encore mieux, car Hegel dira quelque chose de tout à fait surprenant qui va vous surprendre, vous n'allez pas endormir. L'histoire, dit Hegel, est plus ordonnée que la nature. Bon, il doit falloir bien regarder. Mais en tout cas, il est d'accord en cela avec Yahvé, puisque Yahvé dit « Je ne suis pas le père du mont Horeb, je ne suis pas le père du désert, je ne suis pas le père des sources, je ne suis pas la Vierge de Lourdes, je suis la Vierge, et ni celle de Fatima, mais je suis la Vierge. » Parce que on dit la Vierge de Lourdes, la Vierge de Fatima, mais au fond c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on cherche à identifier un lieu, mais Dieu n'est pas identifié à un lieu, il est identifié à une histoire. Cette histoire, elle est une promesse. Promesse dans laquelle il s'engage, lui, et dans laquelle c'est l'homme qui ne tient pas. Parce qu'on avait insisté à propos d'Abraham sur le fait que c'est Dieu qui a l'initiative de la promesse, et non pas qu'il réponde à une attente d'Abraham, et c'est Dieu qui se lie, c'est pas l'homme qui se lie. C'est assez étonnant, enfin c'est même plus qu'étonnant. C'est le mystère. C'est Dieu qui se lie par la promesse, alors que l'homme souvent vaque à d'autres préoccupations. Enfin, ce Dieu qui se révèle et dont Moïse veut connaître le nom. Quand Moïse dit « Quel est ton nom ?», ça revient à dire « Qui es-tu parmi les dieux ?» Parmi tous les dieux qu'il y a dans les différentes populations, lequel tu es ? D'ailleurs, si vous alliez voir Exodus, mais je vous le déconseille, je suis allé le voir par acquis de conscience en me disant, bon, bah, puisque je vais parler de Moïse, il faut quand même que j'aille voir Exodus. C'est une des questions qui est posée dans Exodus avec beaucoup de naïveté, c'est parmi tous les dieux, bon, lequel c'est ? Et au fond, c'est la question de Moïse, quel est ton nom ? Donc je vais aller trouver mes frères, je vais leur dire le dieu de vos pères, mais enfin bon, t'as bien un nom. Et vous connaissez donc tous l'importance de de la réponse qui lui est faite, car Dieu se dérobe à la nomination. Il ne se manifeste pas dans un nom qui désigne une substance, mais dans un verbe qui désigne un acte. Dieu n'est pas chose, il est acte. Il est pur élan d'initiative et non pas chose que l'on puisse stabiliser dans un nom qui la figerait de manière durable. Et donc la réponse de Dieu, je suis celui qui suis, je suis... Enfin bon, cette réponse est énigmatique. Alors les savants dont je ne suis pas discutent de la signification du mot « Yahvé », mais enfin tous s'accordent à dire que l'idée, le noyau intuitif de cette réponse, c'est « je suis ». Je suis comme je suis. Il faut me prendre comme ça. Et le, mais en tout cas, donc ne cherche pas à m'étiqueter dans un musée quelconque, semblable à ce, au musée Branly, par exemple, qui ne fait défiler tristement dans des salles caverneuses que des dieux morts et étiquetés comme des insectes. Non. Dieu se dérobe à tout étiquetage. Il est pure initiative d'être, ou plutôt pure initiative d'existence. Je suis. Et c'est pourquoi, donc, on l'a dit qu'il était, s'il était invisible, il n'était pas inaudible, puisque son acte, c'est la parole, comme nous l'avons vu. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre acte que la parole, puisque tout acte revient à être une parole. Et ce que nous avons vu dans le récit même de la création, puisque dans le récit de la création, c'est par la parole que Dieu fait surgir le monde du néant. Deuxième point que je voulais développer, un homme et son peuple. Le peuple est en effet le deuxième personnage de ces récits, à proprement parler, il est même le premier personnage de ce récit, puisque c'est lui qui, au bout du compte, est l'héritier de la promesse, et non pas Moïse. C'est l'objet de la promesse, c'est le peuple, rappelez-vous. Alors l'histoire est toujours la même, c'est Abraham, donc je te donnerai une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et les grains de sable au fond de la mer. Puis il reste un rejeton, in extremis, qu'en plus il faut sacrifier. Et puis, je conduirai mon peuple au pays de Canaan, il en reste deux. Donc, c'est toujours dans la partie la plus restreinte que la promesse continue de vivre, alors que tout le reste est carnage et oubli. Donc c'est le peuple qui est l'héritier de la promesse et non pas Moïse. Or ce peuple, on le sait, est un peuple infidèle, indocile. Et si le texte nous dit à plusieurs reprises au moment de l'Exode que le cœur du Pharaon s'endurcit, le texte insiste à de reprises encore plus nombreuses sur le fait que la nuque du peuple est raide. Et il y a un parallèle à faire entre le cœur endurci du Pharaon et la nuque raide du peuple. Le peuple n'est pas meilleur que les Égyptiens. S'il est sauvé, c'est vraiment pas grâce à ses vertus. Et donc, il en reste deux donc, comme je disais. Et ce peuple donc sera englouti dans le désert, tout comme les Égyptiens ont été engloutis dans la mer Rouge. Et il faut lire en parallèle l'engloutissement de l'armée égyptienne dans la mer Rouge et l'engloutissement dans le désert du peuple. Le texte est impressionnant. Il faut que nous le lisions pour vraiment nous mettre en présence de cette épopée noire que j'évoquais pour commencer. C'est dans le livre des Nombres, au chapitre 14. Verset 29. Dis-leur, c'est Dieu qui parle et qui s'adresse à Moïse. Va dire au peuple. Dis-leur, je vous traiterai selon les paroles mêmes que vous avez prononcées à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous, tous les recensés. Car on en reparlera tout à l'heure, le peuple fait l'objet de recensements, il fait même l'objet de plusieurs recensements. Le thème du recensement est un thème très très important. Je vous conseille de revenir pour la soirée sur David, car vous aurez la clé si vous venez à la soirée sur David, sinon vous n'aurez pas la clé. Donc à plusieurs reprises, Moïse compte. C'est dérisoire, il va en rester deux. Compter, c'est vraiment l'acte du propriétaire. Il faut savoir combien on est, quelle puissance je représente. Et le texte est assez ironique par rapport à cette volonté justement de recenser. Et ce n'est pas pour rien que Jésus naît dans un recensement. à l'occasion d'un recensement. Vos cadavres tomberont dans le désert, vous tous les recensés, vous tous qu'on a dénombrés depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, vous qui avez murmuré contre moi. Je jure que vous n'entrerez pas dans ce pays où, levant la main, j'avais fait serment de vous établir. Mais c'est Caleb, fils de Yéphuné, c'est Josué, fils de Noun, ce sont vos petits-enfants dont vous avez dit qu'ils seraient livrés en butin. Ce sont eux que j'y ferai entrer et qui connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Pour vous, vos cadavres tomberont dans ce désert et vos fils seront nomades dans ce désert pendant 40 ans, portant le poids de votre infidélité jusqu'à ce que vos cadavres soient au complet dans le désert. Vous avez reconnu le pays pendant 40 jours, chaque jour vaut une année, 40 ans. Vous porterez le poids de vos fautes et vous serez ce que c'est que de m'abandonner. J'ai parlé, moi, Yahvé, c'est ainsi que je traiterai toute cette communauté perverse réunie contre moi. Dans ce désert même, il n'en manquera pas un, c'est là qu'ils mourront. Vous savez quel est l'épisode, la faute que le peuple, enfin une des nombreuses fautes que le peuple a commises. On avait envoyé des émissaires pour explorer la terre de Canaan et savoir si cette terre était vraiment prospère, comme on nous l'assurait. Et les émissaires reviennent en disant « Oui, c'est fantastique, vous savez, on y porte des raisins à deux hommes, il y a une abondance et une fécondité extraordinaire de cette terre, mais il y a des gens armés sur le territoire. On ne sera pas en mesure de les déloger et donc le peuple prend peur et dit « Oula, Yahvé nous a trahis, nous envoie au massacre. Nous, on espérait récolter des raisins, du miel et du lait en abondance. Et voilà qu'il nous envoie donc à une guerre où nous sommes assurés de perdre. » Et donc c'est une des nombreuses récriminations. J'ai voulu m'efforcer, puis j'ai oublié ma promesse, de compter toutes les récriminations du peuple qu'il y a dans les quatre livres. Je me suis arrêté à 7, mais il doit y en avoir plus. Mais il y a au moins 7 reprises où le peuple dit « On veut retourner en Égypte, on était mieux, au moins on mangeait, on a soif, on a faim, où est-ce que tu nous as emmenés, qui t'a fait notre chef, on ne veut pas y aller, etc. » Donc par exemple, c'est l'épisode que je vous racontais. Toute la communauté éleva la voix, ils poussèrent des cris, cette nuit-là, le peuple pleura. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et la communauté tout entière leur dit « Que ne sommes-nous morts au pays d'Égypte ? Que nous sommes-nous morts, du moins, en ce désert ? Pourquoi Yahvé nous mène-t-il en ce pays pour nous faire tomber sous l'épée pour livrer en butin nos femmes et nos enfants ?» Ne vaudrait-il pas mieux retourner en Égypte ? Voilà pourquoi il avait dit « Je vais vous traiter selon votre parole. » Réécoutez ce que dit ce peuple. Que ne sommes-nous morts au moins dans ce désert, plutôt que d'aller se battre ? Pourquoi Yahvé nous mêle-t-il dans ce pays pour nous faire tomber sous l'épée, pour livrer en butin nos femmes et nos enfants ? Et donc Yahvé va leur répondre, ben, vos femmes et vos enfants rentreront dans ce pays où vos enfants que vous vouliez livrer en butin rentreront dans ce pays où vous n'entrerez pas. Ne vaudrait-il pas mieux retourner en Égypte ? Et ils se disaient l'un à l'autre, donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce petit exposé « Le meneur solitaire », puisqu'on voit ce pauvre Moïse sans cesse remis en question par ce peuple à la nuque raide, indocile et râleur. Quelle est l'attitude de Moïse par rapport à ce peuple ? Comment peut-on dire, comme je le disais tout à l'heure, qu'il nous fait rentrer vraiment dans la constitution d'un peuple, dans la naissance d'un peuple ? Il y a un côté de western aussi dans ces quatre livres. Beaucoup de westerns, en particulier ceux de John Ford, nous montrent la genèse d'un peuple à partir d'un désert, comment il s'organise, comment il y a un maire, comment il y a un pasteur, une institutrice et une prostituée. Et donc le peuple s'organise. Et puis il faut un héros. Eh bien là, on voit aussi donc, le peuple s'organiser. Il est premièrement le libérateur de ce peuple. Donc celui qui va avoir l'audace de s'opposer au tout-puissant Pharaon avec l'aide de Dieu et va, à travers cette libération, manifester la fidélité de Dieu à sa promesse. Donc il est bien connu que la libération d'Égypte est aussi une figure du salut. C'est-à-dire de l'humanité sauvée de sa détresse, sauvée de son péché. Et il faut parfois aller bien au fond de la détresse pour ressentir l'urgence du salut. Il est le libérateur et puis il est aussi l'organisateur. Par exemple, avant même d'y être installé, le livre des Nombres nous décrit les frontières de Canaan. C'est-à-dire que le pays n'est pas seulement caractérisé par les hommes qui l'habitent, mais par le territoire circonscrit par des frontières que l'on peut délimiter. Mais évidemment, là commence à se faire jour l'ambiguïté, car définir des frontières, c'est un acte de propriétaire. Et toute l'ambiguïté du salut du peuple, c'est ça. Va-t-il se considérer comme propriétaire de cette terre ? Rappelez-vous, Abraham, qui avait reçu la promesse de la terre, n'y a eu pour toute propriété que sa tombe. Moïse ne l'aura même pas. Mais bon, comme organisateur, il décrit les frontières de Canaan. Il doit maintenir l'unité entre les 12 tribus. Ce point est fondamental pour la compréhension de l'histoire d'Israël, puisque après la catastrophe que les rédacteurs attribuent à David et à Salomon, nous allons le voir, car si Israël a été exterminé, dans le récit biblique, c'est à cause de la grande faute qui a consisté à se donner un roi. Et Moïse n'est peut-être pas exempt de cette tentation aussi, de se comporter en roi. La preuve, c'est qu'il fait un recensement. Mais enfin, ce qu'il préserve d'être un roi, c'est qu'on est encore dans une structure tribale. Il y a 12 tribus. Il y a une féodalité, en quelque sorte, avec chaque tribu à son emblème, chaque tribu à ses traditions, chaque tribu à ses prérogatives. Et donc Moïse doit passer son temps à faire l'équilibre en habile politique entre ces différentes tribus qui tirent à Hu et à Dia, ceux qui sont de la caste sacerdotale jouissant de privilèges que les autres vont leur envier, ou comme cet épisode du chapitre 32 des Nombres, où deux tribus veulent faire sécession. En disant, ben nous, nous nous installons, vous, vous continuez, mais on va laisser nos moutons ici. Cet épisode est très important pour comprendre à quel point la conduite de ce peuple a dû être difficile pour ce pauvre Moïse qui passe son temps à faire des allées et venues entre Dieu et le peuple, comme un intercesseur débordé. Ah oui, c'est dans le livre des Nombres, j'étais dans l'Exode. C'est dans le livre des Nombres au chapitre 32. Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient de grands troupeaux, très importants. Or, ils virent que le pays de Yazer et le pays de Galaad étaient une région propice à l'élevage. Les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent donc trouver Moïse. Et ils dirent, si nous avons trouvé grâce à tes yeux que ce pays soit donné en propriété à tes serviteurs, ne nous fais pas passer le Jourdain. C'est-à-dire, nous on reste, et puis les dix autres tribus vont continuer. Moïse leur répond, vos frères iraient au combat et vous resteriez ici? Pourquoi découragez-vous les Israélites de passer dans le pays que Yahvé leur a donné? Ainsi firent vos pères quand je les envoyais voir le pays depuis Kadès, etc. Alors Moïse va obtenir d'eux que, effectivement, ils laissent leurs moutons dans ce pays, mais qu'ils aillent quand même au combat, ce qui permet de rentrer vraiment dans l'histoire. Et puis, il agit donc comme, il agit comme libérateur, il agit comme organisateur de ce peuple qu'il compte, dont il donne les frontières, dont il maintient l'unité, et dont il arbitre les conflits. Donc sans cesse, il doit arbitrer les conflits, il va consulter Dieu pour le trancher du conflit. Et puis il organise le pouvoir. Cette organisation du pouvoir, elle est très importante parce que on y voit aussi pour Moïse la nécessité de renoncer à une tentation monarchique quelconque, puisque donc l'organisation va précisément être une organisation qui va distribuer le pouvoir entre un certain nombre de collaborateurs correspondant aux tribus. C'est au chapitre 11 des Nombres. Alors Moïse joue une fois de plus le rôle d'intercesseur. Bon. Puis il dit à Yahvé, pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu m'aies imposé la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme la nourrice porte l'enfant à la mamelle, au pays que j'ai promis par serment à tes pères? Où trouverai-je de la viande à donner à tout ce peuple quand ils m'obsèdent de leurs larmes en disant « Donne-nous de la viande à manger !» Je ne puis à moi seul porter tout ce peuple, c'est trop lourd pour moi. Si tu veux me traiter ainsi, tue-moi plutôt. » Donc il raisonne exactement comme le peuple. Il vaut mieux que je meure. Donc il commet les mêmes fautes. Et il n'est toujours pas en terre promise. « Tue-moi plutôt. Si j'avais trouvé grâce à tes yeux, que je ne vois plus mon malheur. » Yahvé dit à Moïse, « Rassemble-moi 70 des anciens d'Israël, que tu sais être des anciens et des scribes du peuple. Tu les amèneras à la tente du rendez-vous où ils se tiendront avec toi. Je descendrai parler avec toi, mais je prendrai de l'esprit qui est sur toi pour le mettre sur eux. Ainsi, ils porteront avec toi la charge de ce peuple, et tu ne seras plus seul à le porter. » Donc on voit naître une organisation politique substitutive. En effet, il est donc intercesseur et puis il est législateur. Ce qu'il va laisser au peuple, et la grande nouveauté évidemment de l'Exode et des Nombres par rapport au livre des Patriarches, je le disais au début, c'est que l'Alliance va passer par la loi et Moïse est celui qui va donner au peuple sa loi. Ce peuple va se reconnaître et à son histoire et à la loi qu'il va suivre. Donc c'est le décalogue. Le décalogue, et puis, donc décalogue, ça signifie les 10 paroles, et puis les innombrables, souvent vétilleuses et scrupuleuses précisions sur les pratiques alimentaires, sexuelles, vestimentaires, etc. Le texte, en particulier du Lévitique, s'étend d'une manière extrêmement détaillée dans la description des rites à observer. On ne cesse pas de préciser les droits et les obligations de chacun, donc je le disais, aussi bien du point de vue liturgique que du point de vue alimentaire, etc. Par exemple, dans le livre de l'Exode qui fait 40 chapitres, la seule description de l'arche en fait 16. Alors on est assez étonné quand même, puisque semblerait qu'il y a d'autres choses à raconter. Et alors, en plus, c'est très impressionnant cette description de l'arche, parce qu'ils sont en plein désert, ils ont faim, ils traînent. Et alors on décrit un temple, une arche, comme si on était déjà installé dans un peuple sédentaire. C'est donc Jérusalem qui est décrite, Jérusalem avec ses trahisons. Dans le désert, c'est déjà Jérusalem qui est décrite, mais vous allez voir comment. Ceci, je le trouve, si je peux avoir une chose un peu pertinente à dire ce soir, ça sera ça. Donc, je disais, la seule description de l'arche occupe 16 chapitres, et on décrit donc très longuement l'arche richement ornée, alors qu'on est dans le désert. Et c'est pourquoi il faut se rappeler que tout ce récit est collecté et rédigé par un peuple qui n'a plus l'arche. car le temple de Jérusalem qui sera reconstruit est un temple vide. Et le peuple devra bien se rappeler que ce temple est un temple vide et que la volonté d'assurer la commémoration de l'Alliance par la préservation de l'Arche a été réduite à néant par la disparition de l'Arche. Et donc, c'est autrement que par la matérialisation d'un objet commémoratif que le peuple devra être fidèle. D'où l'importance de la description de cette arche. Et puis alors, surtout que la description est faite deux fois. On se dit, tiens, une erreur de copiste. Pas du tout. Car la première description, les copistes, on veut toujours que les copistes soient stupides. C'est les lecteurs qui sont stupides, c'est nous. Car la première description est au futur et la deuxième au présent. C'est-à-dire que la première description donne le programme, ce qu'il faudra faire, et puis la deuxième description, qui est exactement la même, mot pour mot, donne ce qui a été fait. Donc on décrit dans une première fois quelle est la commande de Dieu, et puis dans un deuxième temps, donc on décrit l'exécution de cette commande. Je lis deux passages, parce que c'est extrêmement long, hein. Donc, je décris deux passages les plus caractéristiques de cette description de l'arche, en commençant par le deuxième volet, c'est-à-dire quand l'arche est réalisée. Bessaléel fit l'arche en bois d'acacia. Elle était longue de deux coudées et demie, large d'une coudée et demie et haute d'une coudée et demie. Il la plaqua d'or pur, au-dedans et au-dehors, et fit une moulure d'or tout autour. Il fondit pour l'arche quatre anneaux d'or à ses quatre pieds, deux anneaux sur un côté, deux anneaux sur l'autre. Il fit des barres en bois d'acacia et les plaqua d'or. Puis il introduisit les barres dans des anneaux fixés sur les côtés de l'arche pour porter l'arche. Il fit un propitiatoire d'or pur de deux coudées et demie de long et d'une coudée et demie de large. Il fit deux chérubins d'or. Il les fit aux deux extrémités, un chérubin à cette extrémité-ci, un chérubin à cette extrémité-là. Il fit faire corps aux chérubins avec le propitiatoire à ses deux extrémités. Les chérubins avaient les ailes déployées vers le haut et protégeaient de leurs ailes le propitiatoire en se faisant face. Les faces des chérubins étaient tournées vers le propitiatoire. Or, ça, c'est l'arche que l'on réalise. Mais on avait exactement la même description, vous n'y couperez pas, quelques chapitres auparavant, lorsque était faite la commande et que la même description est faite au futur. Vous n'y échapperez pas. Tu feras en bois d'acacia une arche longue de deux coudées et demie, large d'une coudée et demie et haute d'une coudée et demie. Tu la plaqueras d'or pur au dedans et au dehors et tu feras sur elle une moulure d'or tout autour. Tu fondras pour elle quatre anneaux d'or, tu les mettras à ses quatre pieds, deux anneaux d'un côté, deux anneaux de l'autre. Tu feras aussi des barres en bois d'acacia, tu les plaqueras d'or. Et tu engageras dans les anneaux fixés sur les côtés de l'arche les barres qui serviront à la portée. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront pas ôtées. Tu feras aussi un propitiatoire d'or pur, tu feras deux chérubins d'or, etc. Pour que vous compreniez la logique de cette affaire. Qu'y a-t-il entre les deux passages, le veau d'or ? Tu vas me faire une arche. Et entre-temps, qu'est-ce qui est en or ? Le veau. Et l'arche n'est réalisée qu'après ce passage catastrophique de la trahison, où l'on voit donc l'importance du thème de l'or, et où on voit l'importance de la question de Moïse, « Fais-moi voir ta gloire », c'est-à-dire « Fais-moi voir ta lumière », j'ai insisté. Et l'idolâtre, c'est celui qui, de cette lumière, prendra ce que l'on peut capter avec de l'or. Qu'est-ce qui signifie ce récit ? Il signifie aussi que l'arche peut être une idole. Et que celui qui dit « Oh, moi, je ne suis pas du côté du veau d'or, j'ai l'arche avec moi », s'il s'approprie l'arche, s'il la recouvre d'or, s'il l'en fait l'objet de sa vénération, il est tout aussi idolâtre. D'ailleurs, il faut s'intéresser à cet épisode du veau d'or. Alors, vous le savez, l'épisode du veau d'or se déroule tandis que Moïse est au sommet de la montagne et en train d'entendre la loi et d'écrire la loi. Il y a donc une opposition très claire entre ce que l'on voit et ce que l'on entend. Donc, il y a le veau que l'on voit et les paroles que l'on entend dans la nuée. Et ce veau donc, que le peuple édifie par impatience, parce qu'il trouve que Moïse est absent depuis longtemps, et qu'il serait temps qu'on se donne un dieu, le peuple construit ce veau d'or pour combler son impatience. Or, de quoi est fait cet or ? D'où provient-il ? Il provient des bijoux volés aux Égyptiens. Parce que le peuple, quand il a quitté l'Égypte, pas fou, a piqué quelques bijoux en partant. Et donc il n'avait peut-être pas à manger, mais il avait de l'or, comme le roi Midas. Et donc le veau d'or est fait de la même matière dont sera faite l'arche, c'est-à-dire quand on va fondre le veau d'or, on va faire ce veau d'or avec ce veau d'or fondu, on va faire l'arche, qui reste faite avec les bijoux volés par aux Égyptiens. Et donc qui reste au fond le signe d'un peuple qui n'est pas particulièrement vertueux et qui a une certaine conception de la loi. Qui est la nôtre d'ailleurs, puisque nous faisons exactement pareil. Donc cette arche a la plus grande importance. Dieu est présent dans son peuple sous la forme de la loi. C'est donc la loi qui sera contenue dans l'arche. Cette arche va contenir les tables de la loi, remplaçant en quelque sorte le veau. Mais si la loi n'est vénérée que dans sa matérialité, elle est équivalente à un veau d'or. Et il faut que le peuple le rappelle, donc, surtout si le texte est lu du point de vue de la catastrophe. Quand vous reviendrez pour que nous discutions des personnages de David, nous verrons la même chose, c'est-à-dire qu'une des grandes fautes de David, c'est d'avoir voulu construire un temple pour y mettre l'arche. Et donc d'avoir voulu s'approprier Dieu, d'avoir voulu le contenir dans une sorte d'image du pouvoir. Et c'est pourquoi le prophète Jérémie pourra dire « L'arche, un jour, tout le monde aura oublié ce que c'est. » Et si un jour, et c'est à peu près le cas, et si un jour tout le monde a oublié ce qu'est l'arche, ça ne signifie pas pour autant que la loi est disparu, car la véritable arche de la loi, c'est évidemment le cœur de l'homme. Et il faudra qu'il y ait un jour quelqu'un qui soit, en quelque sorte, la loi incarnée, c'est ainsi que les chrétiens lisent cette histoire, et qui soit l'arche vivante où la loi puisse être vénérée, qui nous rappelle les promesses, qui nous rappelle la fidélité de Dieu en dépit des trahisons du peuple. Quelques mots, alors, sur cette loi. Alors, on se bat indéfiniment pour savoir si cette loi est une loi d'amour ou une loi de scrupules formalistes, une loi de terreur. Elle est les deux. Elle est les deux, comme le peuple est un peuple infidèle et de temps en temps fidèle. Et donc, de temps en temps, ce que la loi comporte d'appel à l'amour peut être entendu, et puis quand la loi ne comporte pas d'appel à l'amour, eh bien il reste le scrupule. Le scrupule, c'est la forme retombée de la loi lorsqu'elle n'est plus vécue de l'intérieur. Donc la même loi peut être lue sous les deux aspects. Donc c'est pourquoi il est bon de se rappeler que Cette loi est d'abord celle où figure le commandement de l'amour. Donc tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette loi, elle est la loi mosaïque. Donc ce n'est pas Jésus qui l'a inventée. Ce que Jésus a inventé, c'est « vous vous aimerez les uns les autres comme je vous ai aimé ». Mais sinon, aimez-vous les uns les autres, ou c'est la loi mosaïque dans son essence. Et cette loi, donc, il faut se rappeler qu'elle est une loi de justice, déjà, dans un premier temps. C'est important qu'elle soit une loi de justice. Par exemple, il faut rappeler, mais je pense que vous faites partie de ceux qui le savent, que la loi du talion n'est absolument pas une loi de vengeance. C'est une loi de justice. Parce que la vengeance, c'est un œil, deux yeux. La loi du talion, elle établit une proportionnalité de la faute et de la sanction. La proportionnalité de la faute et de la sanction, c'est le béaba de la justice. Donc dire œil pour œil, dent pour dent, ce n'est pas la formule de la vengeance, c'est la formule de la justice. Cette justice, d'ailleurs, n'est pas sans caractère sublime qu'il est bon de se rappeler, car on va même au-delà de la justice, on va même dans une forme de charité, de compassion, qui va bien au-delà de la justice. Je vous lis un passage qui peut vous importe, qui est un de mes préférés des Écritures. Mais ça ne l'éclaire en rien. C'est dans le Deutéronome au chapitre 24. Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils. Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils, ni les fils pour les pères. C'est la justice. Dans la vengeance, les fils sont mis à mort pour les pères. Les pères ne sont pas mis à mort pour les fils ne sont pas mis à mort pour les pères, c'est la justice, c'est-à-dire c'est l'individualisation de la peine. Chacun sera mis à mort pour son propre crime, c'est la justice. Tu ne porteras pas atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin. Tu ne prendras pas en gage le vêtement de la veuve. Pourquoi ? Et c'est l'explication qui est belle. Souviens-toi que tu as été en servitude au pays d'Égypte et que Yahvé, ton Dieu, t'en a racheté. Ainsi, je t'ordonne de mettre cette parole en pratique, c'est-à-dire de la même manière que toi, tu as bénéficié d'une miséricorde, étant étranger en Égypte, tu as le devoir aussi d'accorder la miséricorde à l'étranger et d'être juste à l'égard de l'étranger, car moi-même, j'ai été juste avec toi. Et c'est là qu'on voit que la loi a simultanément une signification mémorielle et juridique. La suite est encore plus belle. Lorsque tu feras la moisson dans ton champ, si tu oublies une gerbe, ne reviens pas la chercher. Elle sera pour l'étranger, l'orphelin et la veuve, afin que Yahvé, ton Dieu, te bénisse dans toutes tes œuvres. Lorsque tu gauleras ton olivier, tu n'iras rien y chercher ensuite. Ce qui restera sera pour l'étranger, l'orphelin et la veuve. Lorsque tu vendangeras ta vigne, tu n'iras rien y grappiller ensuite. Ce qui restera sera pour l'étranger, l'orphelin et la veuve. Et tu te souviendras que tu as été en servitude au pays d'Égypte. Ainsi, je t'ordonne de mettre cette parole en pratique, où nous vérifions une fois de plus la remise en cause de la mentalité du propriétaire. Tu n'es pas propriétaire de cette terre. On a vu que la faute d'Adam, c'était de se considérer comme propriétaire de la promesse. Et de la même manière, le peuple, lorsqu'il se considérera comme propriétaire et qu'il oubliera qu'il est au fond toujours un peuple nomade, qu'il est au fond toujours un peuple étranger, donc devra se le rappeler par l'intermédiaire de la loi. J'entendais ce matin à la radio un jardinier qui disait « on n'est jamais propriétaire de son jardin ». Superbe formule. Ce refus de la possession, ou de la propriété plutôt, est bien manifesté dans la loi jubilaire. Car, vous le savez, La loi recommande que, à l'occasion du jubilé, c'est-à-dire tous les 50 ans, tous les esclaves soient émancipés, toutes les terres puissent être redistribuées, et que donc nul ne puisse considérer que il est installé dans ses possessions. Et cette loi, donc je le disais, elle instaure la justice en montrant la direction de la miséricorde. Elle montre la direction de la miséricorde parce qu'elle est mémoire de l'exil. Et rappelez-vous, donc c'est un peuple soit qui revient d'exil, soit qui est en exil, qui est en train d'écrire ce texte. Et donc cette mémoire, comme je le disais tout à l'heure, est ce qui permettra au peuple de transporter la loi comme son véritable pays, comme sa véritable nation. Et vous le savez, donc c'est le soir de Pâques, dans les familles juives, le fils doit, dans la liturgie familiale de Pâques des familles juives, le fils aîné doit poser les questions qui sont là. S'il n'y a pas de fils, c'est une fille. Edith Stein raconte ça avec beaucoup d'humour d'ailleurs. Lorsque demain ton fils te demandera, qu'est-ce donc que ces instructions, ces lois, ces coutumes que Yahvé notre Dieu vous a prescrites? Donc manger debout, des herbes amères, du pain non levé, etc. Alors le gamin il dit, pourquoi on fait ça? Pourquoi toutes ces coutumes? Alors vous, occidentaux dégénérés, vous allez répondre quoi au gamin qui dit « Pourquoi on fait ça? Pourquoi toutes ces coutumes ?» Là, vous allez lui répondre « C'est un symbole, mon enfant. » Alors, on mange debout parce qu'on est pressé, on mange du pain pas levé parce qu'on n'a pas eu le temps de le lever et qu'effectivement, il faut qu'on fuit. Et donc, on va vouloir expliquer les gestes pour répondre aux gosses. Mais ce n'est pas ce que dit le texte. Que dit le texte? Lorsque demain ton fils te demandera « Qu'est-ce donc que ces instructions, ces lois et ces coutumes que Yahvé notre Dieu nous a prescrites ?» Tu diras à ton fils « Nous étions les esclaves de Pharaon en Égypte et Yahvé nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. Yahvé a accompli sous nos yeux des signes et des prodiges grands et terribles contre l'Égypte, Pharaon et toute sa maison. Nous, il nous a fait sortir de là pour nous conduire dans le pays qu'il avait promis par serment à nos pères et pour nous le donner. Et Yahvé nous a ordonné de mettre en pratique toutes ces lois afin de craindre Yahvé, notre Dieu, d'être toujours heureux et de vivre comme il l'a accordé jusqu'à présent. Telle sera notre justice, garder et mettre en pratique tous ces commandements. » C'est-à-dire que la loi n'est pas expliquée de manière réductrice, elle n'est pas interprétée, on se contente de reprendre le récit. Et c'est ça la Bible. On ne répond pas, on raconte. C'est pas, la Bible n'est pas un livre de philosophie, c'est pour ça que je suis mal à l'aise pour en parler. On répond par un récit. Et le gamin qui demande des explications, c'est pour ça que personnellement, je suis toujours très exaspéré des liturgies où on explique la liturgie en même temps pour faire plaisir aux gens et dont on pense qu'ils n'y comprennent rien. Alors ça donne des trucs comme on prend un cierge, symbole de lumière. Ben merci. On prend un cierge, c'est tout. Et à la rigueur, on raconte une histoire de quelqu'un qui a pris un cierge un jour. Mais rien de pire, un symbole qu'on explique est un symbole qu'on tue. Et donc, il faut pouvoir le revivre dans une histoire. Cet épisode n'est dû qu'à mon irritation. Épilogue, car l'épilogue de cette épopée est à la fois sublime et terrible. Cette histoire est terrible, car le meneur qui a conduit le peuple, qui l'a émancipé de la tutelle, de la servitude, qui a lutté contre le tout-puissant Pharaon, qui a guidé ce peuple dans le désert pendant 40 ans pour arriver à la terre promise, ne la verra pas. Il n'aura même pas un tombeau. Rappelez-vous, de Joseph, on dit « on va garder ses ossements pour pouvoir les rapporter ». Donc le peuple est censé avoir gardé pendant 400 ans les ossements de Joseph pour pouvoir les rapporter en terre promise. Rappelez-vous, Abraham, il est propriétaire d'un seul petit territoire, c'est son tombeau. Mais enfin bon, il en est propriétaire, il l'a acheté. Et donc il peut dire, c'est chez moi. Concession perpétuelle. Eh bien, de Moïse, il n'y aura même pas de tombeau. Terminons par un mauvais jeu de mots, il n'y aura pas de Moïsolée. Et donc, il se voit dans l'obligation du grand dépouillement. Le texte reste quand même dans une belle ambiguïté, car dans le même temps, il nous dit que s'il n'y a pas de tombeau de Moïse, il est possible que ce soit parce que c'est Dieu lui-même qui l'a enterré. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas de tombeau de Moïse, c'est aussi la suggestion qu'il pourrait peut-être... On peut penser une apothéose de Moïse qui, au lieu d'être enterré et porté au ciel, est porté dans le cœur de Dieu, lui qui fut l'homme le plus humble de tous les temps. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas de tombe de Moïse, c'est peut-être davantage à penser comme une assomption du conducteur du peuple. Mais on peut se demander, parce que quand même, si Moïse ne voit pas Canaan, c'est pour une faute commise. Et ce qu'il y a de plus, j'entends que certains disent laquelle, et le texte ne nous dit pas quelle est la faute. Alors on glose indéfiniment sur, l'épisode du rocher sur lequel il frappe, on ne voit vraiment pas où est la faute. Et à aucun moment, on ne voit vraiment Moïse commettre une... Bon, il est comme nous, de temps en temps, il râle. On vient de voir tout à l'heure, il dit, moi, je préférerais mourir. Mais il n'y a pas, à proprement parler, de faute désignée. Ce qui peut s'interpréter comme le fait que, précisément, il y a des fautes qui sont invisibles à la loi. Et donc, la loi... qui répertorie en quelque sorte ce qu'il faut faire et ne pas faire, n'est pas non plus le tamis qui permet d'être assuré que l'on n'est pas en faute. Et il y a une relation telle que, au fond, le plus humble des hommes, comme on le nomme, celui qui pourrait passer pour le héros combien misérable, est au fond toujours pécheur devant Dieu. Et que cette terre, en tout cas, il ne pourra pas y accéder en conquérant, il ne pourra pas y accéder comme un colonisateur, un chef d'armée, et s'il trouve grâce à Dieu, aux yeux de Dieu, ça ne sera pas donc sous la forme de la réalisation matérielle, charnelle, terrestre de la promesse. Ou alors on peut penser que le meneur, comme je le suggérais tout à l'heure, est au fond solidaire des fautes du peuple. Si ce peuple a été insoumis à la nucrède, râleur et pénible, le meneur emportera jusqu'au bout la responsabilité. Donc pour terminer, nous lisons ensemble les derniers moments de Moïse. Alors, partant des steppes de Moab, Moïse gravit le mont Nebo, sommet du Pisga, en face de Jéricho, et Yahvé lui fit voir tout le pays. Alors il le voit quand même, mais de loin. Yahvé lui dit, voici le pays que j'ai promis, par serment, à Abraham, Isaac et Jacob. En ces termes, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y passeras pas. C'est là que mourut Moïse, serviteur de Yahvé, en terre de Moab, selon l'ordre de Yahvé. Il l'enterra dans la vallée. Alors les exégètes discutent de savoir qui est ce il. C'est peut-être Yahvé. Il l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Jusqu'à ce jour, nul n'a connu son tombeau. Moïse avait 120 ans quand il mourut. Son œil n'était pas éteint, ni sa vigueur épuisée. Les Israélites pleurèrent Moïse 30 jours dans les steppes de Moab. Les jours de pleurs pour le deuil de Moïse s'achevèrent. Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse lui avait imposé les mains. C'est à lui qu'obéirent les Israélites, agissant selon l'ordre que Yahvé avait donné à Moïse. Ici commence une autre histoire, qui est celle de l'occupation de la terre, du livre des Juges, dont parlera en partie Frédéric Croulet.